Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Terre, comme chaque mercredi sur France Culture. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 14h30. Viviane, Noël, Jean-Frédéric et Catherine Madure nous accompagnent en régie. Vous avez rendez-vous avec votre intuition géographique. Cette semaine, près d'une année après l'émission sur les territoires de la révolte en Syrie, Planète Terre évoque la spatialisation très spécifique de la répression et du quadrillage militaire en Syrie. Comme l'an passé, nous sommes avec Fabrice Ballanche, l'un des meilleurs connaisseurs de la Syrie, avec nous en duplex depuis les studios lyonnais de Radio France. Bonjour Fabrice Ballanche.
Bonjour.
Fabrice Ballanche, vous êtes maître de conférences en géographie à l'université Lumière Lyon 2 et vous êtes également directeur du groupe d'études et de recherche sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Vous venez de publier l'Atlas du Proche-Orient arabe, une coédition presse de l'université Paris-Sorbonne, Radio France Internationale. On peut également vous lire dans le magazine Alternative Internationale, actuellement en kiosque et partenaire de cette émission. Les territoires de la répression en Syrie, c'est le sujet de Planète Terre cette semaine. La révolte contre le pouvoir en Syrie a débuté en mars 2011. Le régime baasiste de Bachar el-Assad l'a immédiatement réprimé militairement. À l'œuvre depuis une année maintenant, cette répression a fait plusieurs milliers de morts et des dizaines de milliers d'arrestations. Elle est loin de s'abattre uniformément sur toutes les zones de contestation. Alors, y a-t-il une logique, un ordre territorial de la répression ? Fabrice Ballanche, que répondez-vous à cette question ?
Il y a un ordre, il y a une temporalité. La première préoccupation du régime a été de contrôler en fait ses frontières au printemps 2011. Deraa, c'est à la frontière jordanienne, parce qu'il était persuadé qu'il y avait un complot de l'étranger. Alors même si au final il reconnaît qu'il y a des problèmes internes, qui sait qu'il y a des problèmes internes pour la propagande, mais également par rapport à la géopolitique, il avait très peur d'une intervention étrangère sur le modèle libyen, qu'une zone telle Deraa se libère sur le modèle Benghazi ou Misrata, et ensuite qu'il y ait une résolution de l'ONU qui envoie des troupes en Syrie.
Est-ce que ce que vous dites à propos de Deraa peut également se retrouver sur les villes frontalières du nord, c'est-à-dire les villes qui sont près de la frontière avec la Turquie ou avec éventuellement les rares villes frontalières de l'Est avec l'Irak ?
Oui, alors vis-à-vis de l'Irak, il s'est focalisé sur Derzor, à la frontière irakienne, une ville qui s'était soulevée en juin, juillet, partie du mois d'août 2011. On se souvient plutôt à l'époque de la révolte qui avait embrasé en fait Homs et surtout Hama, la ville de Hama au centre de la Syrie. Ça avait complètement échappé au pouvoir du régime. Il y avait de grandes manifestations dans la ville, près de 100 000 personnes. Toute la population, je dirais, masculine, adulte de la ville était dans la rue. Et le régime a laissé faire, il s'est contenté d'encercler la ville. Et il a fait porter ses efforts militaires sur la ville de Derzor, parce qu'il avait très peur à l'époque qu'une intervention américaine ait lieu dans cette région. Il faut se souvenir que les Américains n'avaient pas encore quitté l'Irak, ils disposaient donc de troupes. Ils étaient dans la partie sunnite de l'Irak et ils avaient vraiment très peur de cela. Vis-à-vis de la Turquie, ils ont eu peur également qu'il y ait une percée turque qui vienne au secours de la ville de Jeselchoghur. Jeselchoghur, c'est une ville qui se trouve entre Latakia et Alep, ville sunnite, au contact du pays alaouite.
Donc plutôt à l'ouest, au nord-ouest.
Au nord-ouest, juste au sud du Sanjak d'Alexandrette. Et là, il y avait eu un massacre, une centaine de policiers qui avaient été tués. C'était assez bizarre cette histoire. Et l'armée a cerné la ville. Quasiment toute la population de la ville avait fui. Il y avait à peu près 10 000 réfugiés en Turquie. Sinon, ils avaient fui dans les villages voisins.
En quel mois était-ce, Fabrice Ballanche ?
Si mes souvenirs sont exacts, c'était en juillet 2011. Et là, ils avaient peur également d'une venue depuis la Turquie.
Oui, parce que entre-temps, la Turquie a rompu ses relations diplomatiques avec la Syrie, alors que depuis 2 ou 3 ans, le gouvernement de Monsieur Erdogan, le gouvernement turc, se faisait fort, disons, de amener par des moyens diplomatiques la Syrie à nouveau dans le concert des nations du Proche et du Moyen-Orient.
Alors, il y avait de très bons rapports avec Erdogan. Erdogan appelait Bachar el-Assad mon ami, donc des voyages fréquents de part et d'autre. La Turquie jouait un rôle d'intermédiaire entre la Syrie et Israël pour les négociations sur le Golan. Il y avait un traité de libre-échange avec la Turquie en 2008, donc des relations commerciales très, très puissantes. Les Turcs étaient présents en Syrie, ils avaient racheté une chaîne d'hôtels, la chaîne méridienne qui était devenue une chaîne turque. Il y avait d'excellents rapports avec la Turquie, puis ça s'est dégradé vraiment d'une manière très 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 très, très rapide, au point effectivement que les Turcs rompent les relations au mois d'août.
Il y a combien de réfugiés syriens qui se sont installés sur le territoire turc, ou plus exactement qui ont été accueillis par le gouvernement turc ?
Alors, il y a eu 10 000 réfugiés durant l'été 2011. La moitié sont retournés en Syrie. Et puis, de nouveau, à partir de février, on a vu le nombre de réfugiés augmenter. Aujourd'hui, c'est à peu près 25 000 dans 3 ou 4 camps qui sont situés à la frontière turque, dans le Sanjak d'Alexandrette, et 3 camps dans le Sanjak d'Alexandrette, et puis un camp à Kilis, au nord d'Alep.
Donc, tout cela explique donc, selon vous, le fait que le régime syrien, le régime de Bachar al-Assad, se soit inquiété, disons, d'une possible intervention de la Turquie, une intervention militaire, et éventuellement, derrière la Turquie, une intervention de l'OTAN.
La Turquie fait partie de l'OTAN, donc effectivement, si la Turquie attaquait la Syrie, c'était vraisemblablement avec l'accord de l'OTAN et une résolution tout de même du Conseil de sécurité de l'ONU. Or, à partir de l'automne, sans doute septembre, octobre, là, Bachar el-Assad a compris qu'il bénéficiait du soutien russe, un soutien russe indéfectible. Toutes les résolutions qui ont été présentées à l'ONU en novembre, puis une autre en janvier, ont essuyé un refus cinglant des Russes et des Chinois qui ont mis leur veto pour empêcher toute résolution qui permettrait ensuite à l'ONU et à l'OTAN de justifier une intervention militaire comme ça a été le cas en Libye. Les Russes ont été être furieux du coup que leur ont joué l'OTAN, avec une résolution qui était plutôt vague.
Là, vous parlez de la Libye, hein ?
La Libye, oui, qui devait normalement permettre de sauver les civils. Benghazi était encerclé par les troupes de Kadhafi, on nous parlait d'un bain de sang, et dans la nuit, il y a eu cette résolution qui a été votée, et les forces de l'OTAN, les forces de l'OTAN ont pu intervenir en Libye. Mais pour les Russes, il n'était pas question à l'époque que le régime de Kadhafi tombe, c'était juste pour protéger les civils, et ils trouvent que l'OTAN a outrepassé sa mission. Et il n'est pas question donc que ça soit la même chose en Syrie, parce que la Syrie est leur allié, c'est un allié stratégique, ils ont une base militaire navale à Tartous, en Méditerranée, ils installent des radars. Et puis d'un point de vue géopolitique mondial, les Russes qui sont en train de revenir sur le devant de la scène, et ça, on l'avait sous-estimé, parce qu'on était habitué depuis la chute de l'Union soviétique à avoir une Russie faible, dirigée par des alcooliques.
Vous exagérez un peu, Fabrice.
Boris Eltsine était quand même assez porté sur la bouteille.
Il n'était pas tout seul à diriger l'IRGP. Bon. Mais pour en revenir au territoire de la répression en Syrie, donc tout ce contexte géopolitique explique d'une part que la répression du régime militaire, répression des révoltes pacifiques, rappelons-le, se soit d'abord porté sur ces villes frontières, et est-ce que cette assurance donnée par la Russie que cette dernière bloquerait toute tentative d'intervention militaire venant de l'extérieur, qui fait que, dans un second temps, à partir de l'automne 2011, finalement, la répression, de façon extrêmement dure, se soit portée vers les villes situées à l'intérieur du pays. Est-ce qu'on peut présenter les choses comme ça ou est-ce que c'est trop schématique, Fabrice Ballanche ?
Ah, ça, c'est un aspect des choses. Effectivement, sûr de la protection russe, les Syriens ont pu reconcentrer leurs forces sur les poches de l'intérieur, contre les populations civiles. Mais il faut dire aussi qu'entre-temps, il y a eu une militarisation de l'opposition syrienne. Vous avez eu la création de l'armée syrienne libre avec des officiers, des sous-officiers, des déserteurs qui ont entraîné avec eux des soldats, mais également des civils dans les villages, dans les quartiers qui ont pris les armes contre le régime. Et du moment que vous aviez une militarisation de l'opposition, la répression ne pouvait que s'amplifier. C'est ça qui a montré un tournant. Et d'ailleurs, à partir du moment où vous avez eu une militarisation de l'opposition, les manifestations sont devenues moins importantes. Elles sont devenues moins importantes.
Comment expliquer ce paradoxe ?
Puisque vous avez une partie des Syriens qui sont opposés au régime, qui veulent des réformes, mais qui ne veulent pas ni d'une intervention étrangère, ni d'une militarisation de l'opposition, qui veulent combattre le régime par des moyens pacifiques. Et vous avez donc des gens qui sont exaspérés, voyant que ça ne mène à rien, ou d'autres qui ont envie de prendre leur revanche. Je pense aux frères musulmans ou aux salafistes qui avaient été éliminés de Syrie dans les années 80, après le massacre de Hama, qui eux veulent...
20 000 morts en 1982. Hein.
20 000 morts en 82, plus évidemment des milliers de morts entre-temps, après, avant, et des dizaines de milliers d'arrestations, des dizaines de milliers de gens qui ont été conduits à l'exil. Ces gens-là, ils veulent reprendre le pouvoir, ils veulent combattre le régime, et il n'est pas question pour eux d'utiliser les moyens pacifiques, parce qu'ils considèrent qu'avec ce régime, il n'y a que la force, qui peut réussir. Donc ça a fait fuir beaucoup de gens des manifestations. Il faut dire aussi qu'à force d'être réprimés, les manifestants, évidemment, étaient moins courageux.
Quels sont donc alors, quels ont été ou quels sont encore aujourd'hui, mais il semble qu'aujourd'hui le mouvement se soit vraiment essoufflé en raison de cette répression extrêmement sévère et sur le long terme ou sur le moyen terme efficace, quelles ont été les villes, puisqu'il s'agit essentiellement de villes les plus touchées, est-ce qu'il y a pour vous une caractéristique, disons territoriale, qui permet de comprendre à la fois ces révoltes et donc la manière dont s'est abattue la répression ?
Comme on en parlait l'année dernière sur la géographie de la révolte syrienne, l'essentiel des territoires qui se sont révoltés, ce sont des territoires arabes sunnites. Et des territoires arabes sunnites pauvres, plutôt. La région de Deraa, arabe sunnite, une région qui est en déclin économique au sud de Damas, entre Damas et la Jordanie, qui est en déclin économique. Parce qu'elle bénéficie de moins de soutien de la part de l'État, parce qu'il n'y a pas de développement industriel, parce que l'agriculture a des problèmes, parce qu'il y a moins des problèmes d'eau, une croissance démographique aussi qui est extrêmement forte.
Ça, c'est un élément, Fabrice Ballanche, sur lequel vous mettez dans la plupart de vos articles l'accent. Vous parlez même de bombe démographique à retardement. Vous expliquez que jusqu'à une date relativement récente, le taux de fécondité de la Syrie, de la population syrienne, était le troisième plus élevé au monde. Est-ce que vous pouvez juste développer un tout petit peu sur ce point ? Parce que c'est finalement, à vous entendre, un facteur important et c'est un facteur dont il est assez peu fait mention dans les différentes analyses qui sont livrées sur cette révolte et cette répression.
Entre 1945, l'indépendance, et les années 90, la population syrienne a doublé tous les 20 ans.
Aujourd'hui, elle est de 23 millions d'habitants ?
À peu près 23 millions d'habitants. La croissance démographique a un petit peu réduit. Au lieu d'avoir 3% de croissance par an, on a 2,4% de croissance. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 8 à 9 enfants par femme...
Comme vous on avez dit, en moyenne. Il n'y a que les démographes pour oser dire une chose pareille.
Vous avez peut-être 5 enfants par femme. Ça reste énorme. Pour les capacités du pays. La Syrie est un pays peu peuplé en 1945. Aujourd'hui, si vous prenez uniquement la partie habitée de la Syrie, ça vous fait une densité de 200 habitants par kilomètre carré.
Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a une très grande partie du territoire syrien qui est une steppe semi-désertique en fait.
Voilà, vous avez 40% du territoire qui est parcouru par les Bédouins, qui n'est pas habitable en permanence. Donc la population se concentre le long de la vallée de l'Euphrate, du Grabourg et dans l'ouest du pays. Et sur cette zone, bah, vous faites le calcul, à peu près 100 000 km² habitables, 23 millions d'habitants, on est à 230 habitants par kilomètre carré. Et on devrait atteindre en 2020 peut-être 28 millions d'habitants en Syrie. Et dans un pays où vous n'avez pas la capacité d'absorber la main-d'œuvre aujourd'hui, alors qui plus est la main-d'œuvre qui va arriver dans 10 ans, dans 15 ans, parce que même si la population a commencé, la croissance démographique a commencé à réduire depuis une dizaine d'années, il ne faut pas oublier que les gens qui sont nés dans les années 80-90, ils vont avoir 20 ans bientôt et ils vont rentrer sur le marché du travail et ils ne vont pas trouver de travail non plus.
Qu'est-ce qui explique, disons, cette atonie du marché du travail ? Parce qu'après tout, la Syrie pourrait connaître un autre type de développement économique que celui anémique que vous décrivez.
Bon, il y a beaucoup de facteurs.
Les principaux, pour qu'on n'oublie pas les territoires de la répression.
Oui, un pays qui durant les années, avec le régime bassiste, qui s'est fondé sur un mode de développement autocentré, donc très, très bureaucratique, avec une économie étatisée. Alors ça fonctionne tant que vous avez une population, je dirais, de 10 millions d'habitants. Ça peut aller parce que c'est basé sur l'agriculture, c'est basé sur l'industrie publique, etc. Mais à un moment donné, comme dans les pays communistes, ce système devient complètement obsolète, ne fonctionne plus, est paralysé. Et vous avez donc une libéralisation économique qui s'est produite. Mais cette libéralisation économique est en fait bridée par l'appareil bureaucratique, par la corruption,
par le clientélisme.
Par le clientélisme. Et donc, vous n'avez pas un développement des forces productrices comme on pourrait l'avoir dans un pays avec une véritable économie de marché. Alors, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal ? Je me dis que c'est sans doute ce qui sauve encore aujourd'hui le régime d'Assad, parce que si on avait un libéralisme total en Syrie, ça serait pire. Ça serait pire parce que les derniers symboles en fait, de l'économie bassiste, le soutien à l'agriculture, les industries publiques, une administration pléthorique, qui certes crée des blocages du côté de l'économie libérale, crée quand même de l'emploi et permet de maintenir une certaine partie de la population à flot.
C'est, enfin, pour le dire trop rapidement, c'est finalement la figure ou la forme prise par l'État-providence dans cette dictature.
Voilà. Hein, la dictature des Assad se base sur la répression, mais se base aussi sur certaines aides à la population, un certain soutien à la population qui lui permet d'avoir une légitimité. Mais depuis une dizaine d'années, faute de moyens et...
Et faute de financement extérieur, parce que pendant toutes les années 70 et 80, il y avait un très fort soutien de l'Union soviétique qui a cessé. Et puis, il y a même eu jusqu'à une certaine époque un soutien de l'Arabie saoudite également, ou des pays du Golfe de manière plus générale.
Alors à partir de 73, de la guerre du Kippour, vous avez les pays du Golfe qui vont aider massivement la Syrie. Leur aide représentait entre 1 et 2 milliards de dollars par an, soit à peu près 35% du PIB syrien. Donc effectivement, avec une manne de ce type, vous pouviez développer un système étatiste qui fonctionnait, mais qui fonctionnait uniquement grâce à des financements extérieurs. Lorsqu'à la fin des années 80, il n'y a plus de soutien de l'Union soviétique ni des pays du Golfe, parce que la Syrie soutient l'Iran contre l'Irak, là, effectivement, le système a été obligé d'évoluer.
Et donc un des effets pervers, ou en tous les cas un des dommages collatéraux pour emprunter un terme, disons, à la phraséologie des commentateurs militaires, c'est donc finalement le passage de ce système que vous venez de décrire à un système, disons, plus libéralisé, mais donc également très très corrompu, qui expliquerait, selon vous, qu'il y a eu un très fort exode rural, notamment, que finalement un certain nombre de personnes se retrouvent dans une situation de pauvreté aggravée, d'autant plus que la croissance démographique est très forte. Et c'est ces personnes-là, selon vous, qui, disons, sont un petit peu le fer de lance de la révolte, parce que dans les villes où la révolte a lieu, ou a eu lieu pendant toute une année, on est dans certains quartiers bien déterminés qui, selon vous, sont liés à cette évolution.
Tout à fait. Des quartiers paupérisés, alors soit du fait de l'exode rural, des petites villes de la région de Dera ou de la région de Homs qui ne bénéficient plus d'aide de l'État, où il n'y a pas de travail. Vous avez une jeunesse qui a quand même été à l'université, qui a des diplômes, mais qui ne trouve pas en fait, de travail par rapport à ses diplômes. Donc il se retrouve complètement déclassé. Un phénomène qu'on a vu en Tunisie, hein, Assili Bouzid, ce jeune diplômé d'histoire qui était vendeur des quatre saisons et qui s'est immolé par le feu. C'est aussi ça,
alors, réalité de la Syrie. Oui, en même temps, Fabrice Blanche, puisque vous évoquez la Tunisie, on pourrait bien entendu aussi penser à l'Égypte. Ce qui est très frappant lorsqu'on compare ces trois pays, c'est que en Tunisie et en Égypte, bien entendu, l'importance des manifestations dans les capitales, respectivement Tunis et Le Caire, ont joué un rôle, disons, tout à fait déterminant dans la chute des régimes de ces deux pays ou du pouvoir de ces deux pays. Tandis qu'en Syrie, Damas n'a pas bougé, Alep, la seconde ville du pays, n'a pas bougé. Est-ce que c'est le fruit du hasard ou est-ce que c'est le fruit, là aussi, d'une stratégie territoriale de la répression, en tout cas du contrôle du territoire ?
Alors c'est le fruit d'une stratégie territoriale et aussi du fait que les populations de Damas-Centre et de Alep-Centre soutiennent le régime, ce qui n'est pas le cas des populations, en tout cas de Damas-Banlieue. Hafez al-Assad disait « Qui tient Damas, tient la Syrie ». Et donc il a fait porter ses efforts stratégiques sur la ville de Damas. La ville de Damas est entourée par des camps militaires dans lesquels il y a des forces qui lui sont fidèles, donc les Alaouites qui viennent de sa région d'origine, et qui ceinturent complètement la ville. C'est quand même plusieurs centaines de milliers de personnes avec les familles. Ensuite, il était absolument impossible pour les manifestants qui venaient des banlieues de venir prendre les grandes places de Damas, la place des Abbassides ou la place des Omeyyades, parce qu'ils n'avaient pas envie d'un phénomène comme au Caire, la place Tahrir, envahie par les manifestants et dont on ne parvient pas à les déloger, ou alors au prix d'efforts incroyables, qui seront évidemment une répression qui sera médiatisée et qui cassera l'image de la Syrie dans les médias internationaux. Enfin, de toute façon, il a déjà perdu cette image. Mais donc Damas a vraiment été protégé par le régime, Damas-Centre. La contestation a été limitée dans les quartiers périphériques.
Qu'on comprenne bien, Fabrice Blanche, quand vous dites Damas-Centre, c'est l'équivalent d'une ville de quelle superficie à peu près ?
Alors, superficie, je ne l'ai plus en tête.
Si on compare à une autre ville.
Oui, bah Damas, l'agglomération de Damas fait à peu près 5 millions d'habitants aujourd'hui. Et vous avez Damas Centre qui fait à peu près 1 500 000 habitants. Donc on peut... l'équivalent, par exemple, de Paris, tout simplement. Paris intramuros. Autour, bon, une banlieue d'à peu près 3-4 millions d'habitants, dont la moitié vivent dans des quartiers informels. Et c'est ces gens-là qui, évidemment, qui manifestent.
Ce que vous appelez des quartiers informels, c'est en fait des quartiers qui sont développés par étalement urbain, liés à l'exode rural, sans accompagnement, on va dire, maîtrisé par une politique d'aménagement du territoire. Donc on se retrouve dans des quartiers avec de l'habitat un peu de type bidonville, de briquet de broc et de récupération. On se branche sur les réseaux d'adduction d'eau quand il y en a. On tire les fils pour avoir l'électricité. C'est surprenant, vu ce que vous disiez tout à l'heure du régime qu'il ait laissé se développer ce type d'urbanisation.
Alors c'est pas du bidonville à la brésilienne tout de même. Hein. C'est des maisons en dur. C'est des maisons en dur avec des rues, pas asphaltées. On arrive à avoir de l'eau en se branchant sur celui du voisin, sur le canal du voisin, avoir de l'électricité en négociant avec le pouvoir. En fait, dans les années 80, disons, le régime, pour s'attacher à la population, distribue des appartements, distribue de l'emploi, distribue des aides. Ensuite, il n'a plus les moyens. Alors, pour pouvoir tenir quand même la population, la technique, c'est de distribuer des tolérances. On vous laisse construire votre maison dans l'illégalité. Vous bakchichez la municipalité qui vous laisse faire pendant 2 jours votre construction. Et puis ensuite... vous négociez avec le régime, via les notables du quartier, via les religieux, la légalisation ou l'accès aux services publics. Et donc, le régime, comme ça, vous donne une exception, vous donne une tolérance en échange de votre rentrée dans les réseaux de clientélisme. En fait, c'est toute une technique. On vous pousse à la faute pour ensuite pouvoir vous tenir. En pensant, évidemment, que ça peut... qu'il allait pouvoir s'attacher les gens des quartiers informels.
Et ce sont ces quartiers-là qui précisément se sont révoltés. Et comment se passe alors la répression? On parle beaucoup notamment de la répression qui s'est abattue sur la ville de Homs des combats assez cataclysmiques où les gens ont été véritablement assiégés. Est-ce que vous pouvez essayer de préciser un peu cette image telle qu'elle a été rapportée par les médias français?
Alors bon, cette image a été très, très exagérée en fait, parce que à Homs, le quartier qui s'est révolté, qui était sous le contrôle de l'opposition, c'est le quartier de Babamer, qui se situe au sud-ouest de la ville de Homs, sur la route de Tripoli du Liban. C'est un quartier d'à peu près 40 000 habitants. Il faut quand même savoir que Homs fait 800 000 habitants. Ce n'est pas l'ensemble de la ville qui a été pilonnée, encerclée, bombardée. Mais vous aviez, un tiers de la ville de Homs qui échappait tout de même au contrôle direct de l'armée syrienne, parce que d'autres quartiers comme Bab Siba, comme Khaldiyeh, qui sont des quartiers sunnites, assez intégristes, se sont révoltés également. Les rebelles ont trouvé refuge dans ces quartiers. Donc la technique a consisté à encercler ces quartiers. Je pense à Babamer, pour limiter l'extension des zones rebelles.
Encerclé par l'armée, avec les chars.
Encerclé par l'armée, avec les chars, tout à fait. Et puis, inviter les civils à quitter ce quartier. S'ils ne le font pas, on envoie quelques obus de mortier, histoire de leur faire comprendre que le quartier va être bombardé et qu'il vaudrait mieux pour eux qu'ils s'en aillent. Lorsque l'armée syrienne, en février, a donné l'assaut au quartier de Babamer, sur les 40 000 habitants, il y avait peut-être plus que quelques milliers de personnes seulement qui étaient restées. Donc il s'agissait en fait de faire sortir le maximum de civils pour pouvoir prendre le quartier sans faire trop de victimes. Parce que c'est une des lignes rouges qu'ont donné les Russes à Bachar el-Assad, c'est de ne pas recommencer le massacre de Hama comme son père en 82. Donc ne toucher que des rebelles et éviter de toucher des civils.
Tout en les ayant fait fuir, ces civils, par une forme de terreur néanmoins. Hein. Auparavant, donner l'assaut.
Oui, avant de donner l'assaut, mais il faut dire aussi que une autre technique, qui est en fait une technique classique de contre-insurrection, consiste à laisser les rebelles s'installer dans les quartiers de Homs. Ces rebelles, évidemment, sont pas tellement différents en fait des milices du régime, les Shabihat. Hein, ce sont pour beaucoup des voyous recrutés dans les bas quartiers. Donc ils se conduisent, je dirais, de la même manière que les milices du régime.
Vous voulez dire, d'abord on protège un quartier, puis une fois qu'on l'a protégé, on le rançonne, c'est ça que vous
voulez
dire ?
Voilà, c'est ça. Une fois qu'on s'est installé dedans, on le rançonne, on joue les caïds, et puis la population finit par vous détester, la population finit par partir, parce que vous avez aussi cette opposition qui va éliminer des gens qui sont susceptibles d'être pro-régime. Je pense par exemple à des gens, des alaouites ou des chrétiens qui étaient dans ces quartiers ou proches de ces quartiers.
Et vous dites bien susceptibles de...
Susceptibles de, parce que on fait l'amalgame, enfin l'opposition fait, souvent l'opposition fait l'amalgame entre alaouites et pro-régime. Donc on sait que vous êtes alaouite ou alors... On le repère par votre nom, par votre accent, et on vous élimine. Donc ça a fait. Ou alors si vous travaillez pour l'État, tout simplement, vous êtes un sunnite, vous êtes fonctionnaire, donc vous êtes forcément pour le régime et on vous élimine.
Alors, cette distinction très importante pour le contexte syrien que vous introduisez entre les différentes communautés, et je comprends bien que c'est une grille de lecture, non pas la vôtre, mais une grille de lecture sur le terrain de la part des acteurs. Est-ce que c'est cela qui explique que dans des situations analogue de révolte, mais dans d'autres villes, dans d'autres territoires, je pense notamment aux villes qui sont très majoritairement en territoire kurde, en territoire syrien kurde, donc plutôt près de la frontière turque, la répression, semble-t-il, a été certes réelle, mais beaucoup plus modérée. Est-ce que c'est exact? Et si oui, pourquoi?
Oui, dans la région kurde, qui est au nord de la Syrie, la région de Kamishli, la région de Afrin, vous avez eu de grandes manifestations. Il y a eu très peu de morts. parce que l'armée syrienne n'a pas utilisé la même force pour réprimer ou à laisser faire les manifestations, ce qu'elle n'a pas fait évidemment à Homs, Hama ou Deraa. Il s'agit pour le régime de montrer que de s'attacher les minorités en faisant peur aux minorités, en leur disant attention, si le régime tombe, c'est la majorité arabe sunnite qui va prendre le pouvoir, ce sont des islamistes, des nationalistes arabes, et donc vous les Kurdes, ils ne vous donneront aucun droit. D'ailleurs, il est vrai que l'opposition par rapport aux Kurdes a un langage très dur, puisqu'ils ne reconnaissent pas les Kurdes en tant que Syriens. Certains disent que ce sont des invités, tout simplement, en Syrie, donc ils n'ont pas à avoir de droit.
Ceci étant, le régime n'a pas donné beaucoup de droits aux Kurdes non plus. Hein.
Non, mais il commence aujourd'hui pour se les attacher. Donc vous avez les Kurdes qui sont en dehors de l'opposition, en dehors du Conseil national syrien.
Bon, bah écoutez, on pourrait continuer, bien entendu, oui. et j'espère qu'on le fera, mais là, l'émission touche à son terme. Merci en tous les cas, Fabrice Ballanche, pour vos précieux éclairages qui permettent de bien saisir la subtilité de la répression et en même temps de la révolte. Hein. Ça a beau être quelque chose de très très dur, elle n'en est pas moins complexe. C'était donc les territoires de la répression en Syrie sur Planète Terre. Alors sur le site web de France Culture, dans la rubrique Science, vous pouvez podcaster cette émission jour et nuit pendant une semaine. Vous pouvez également l'écouter en ligne autant qu'il vous plaira, ainsi que l'émission de mai 2011 qui s'intitulait Les territoires de la révolte en Syrie. Je vous invite à prolonger cette émission et la précédente, bien sûr, en carte sur Globe, le blog de Planète Terre, et également dans Alternative Internationale, partenaire de Planète Terre. Alors sur un tout autre sujet, sachez que l'Université de Savoie-Chambéry vous invite demain à la 12e édition de Géo Horizon, dont le thème est les métropoles européennes. Et enfin, l'émission de mercredi prochain sur Planète Terre sera consacrée à une géographie électorale du vote du premier tour avec Jacques Lévy.